L'heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Sous pression après les violences de samedi dernier à Paris, le chef de l'État réunit depuis ce matin à l'Élysée les ministres et secrétaires d'État à l'intérieur ainsi que la garde des Sceaux, de même que le Premier ministre. Édouard Philippe devra à cette occasion décliner de nouvelles mesures destinées à éviter une répétition de ce scénario samedi prochain. On parle notamment d'une possible interdiction de manifester sur les Champs-Élysées.
Dans votre journal également, le pape François qui reçoit depuis ce matin au Vatican le cardinal Philippe Barbarin.
Le plus haut dignitaire catholique français souhaite lui présenter sa démission après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre. Selon un nouveau bilan, au moins 162 personnes ont trouvé la mort au Zimbabwe et au Mozambique voisin au cours du passage dévastateur du cyclone tropical Idai. Des dizaines d'autres sont toujours portées disparues.
Les vols des deux Boeing 737 qui se sont écrasés récemment faisant plusieurs centaines de morts en Éthiopie et en Indonésie montreraient des similitudes claires selon leur boîte noire.
Et de son côté, Boeing a annoncé hier la correction de très prochaine d'un logiciel de stabilisation de ces appareils. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Valentine Zuber, historienne, enseignante à l'école pratique des hautes études. Elle fera partie de la soixantaine d'intellectuels invités à participer au débat organisé ce soir par Emmanuel Macron et retransmis en direct sur France Culture. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il a la passion de la France, c'est en tout cas le titre qu'il a choisi de donner à un recueil de textes et discours qu'il a prononcé tout au long de son parcours. Cours de sa vie politique. Il est probablement le dernier des républicains, en tout cas tel qu'il le définit, un républicain de bataille, donc un socialiste. Rendez-vous à partir de 12h55 avec Jean-Pierre Chevènement, qui est donc l'invité de ce lundi.
Merci et à tout à l'heure. 4 mois, presque jour pour jour, après le début du mouvement des Gilets jaunes, et alors que la veille au soir devait s'achever le grand débat national censé apporter une réponse à la crise, la nouvelle journée de mobilisation samedi avait été présentée comme un ultimatum au président Emmanuel Macron. Des alertes émises par les renseignements territoriaux avaient, semble-t-il, fait remonter des éléments indiquant une mobilisation plus forte et plus radicale. Enfin, ajoutez à cela les images embarrassantes d'un ministre de l'Intérieur pris en flagrant délit de clubbing par les magazines People, sans oublier celles non moins déroutantes d'un président tout sourire sur les pistes de ski ensoleillées des Pyrénées. Le cocktail de ce 18e acte des Gilets jaunes s'annonçait a priori potentiellement explosif. Et au final, non seulement les scènes de pillage, d'incendie et d'affrontement auront effectivement témoigné d'une nouvelle flambée de violence, mais plus encore, les images diffusées en boucle tout le week-end n'auront pas manqué de rappeler celles déjà dévastatrices des premières journées de mobilisation dans la capitale. Au point que jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir, les événements de ce samedi auront résonné comme un aveu d'échec dès hier soir. Le gouvernement a lui-même admis des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité et depuis ce matin, Édouard Philippe, accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Garde des Sceaux, est à l'Élysée pour faire de nouvelles propositions au chef de l'État. Roméo Van Maastricht, bonjour.
Bonjour.
Alors l'exécutif promet des mesures fortes dans les meilleurs délais pour prévenir une répétition de ces violences samedi prochain. Ces mesures devraient être détaillées cet après-midi, mais d'ores et déjà, la question se pose de savoir quelle pourrait en être la nature, étant entendu que les moyens dédiés au maintien de l'ordre n'ont jamais été aussi importants. Samedi dernier encore, la gendarmerie a confirmé l'usage pour la première fois en métropole d'un nouveau gaz sous forme de poudre incapacitante et équivalent à 200 grenades lacrymogènes. On parle par ailleurs d'interdire éventuellement les manifestations sur les Champs-Élysées. Vous avez sollicité, Roméo, les premiers intéressés, en l'occurrence les forces de l'ordre, pour savoir ce qu'elles-mêmes préconisaient pour prévenir ce genre de violence.
Oui, les syndicats sont vent debout contre la préfecture de police de Paris. Ils lui reprochent un déploiement des forces de l'ordre totalement catastrophique. C'est le cas de David Michaud, secrétaire national CRS chez UNSA Police. Il faut procéder à une meilleure utilisation des forces à disposition.
12 compagnies de CRS ont été mises sur un dispositif de sanctuarisation de l'Élysée, c'est-à-dire que ces 1000 personnes n'ont pas fait leur cœur de métier, ne sont pas intervenues, qui en fait regardaient les débordements se passer, alors que eux sont des spécialistes du maintien d'ordre et on aurait pu rétablir l'ordre public avec ces personnes et les moyens qu'ils ont en permanence.
Est également critiqué la chaîne de commandement. Tout est fait, selon lui, pour éviter la confrontation. Les moyens de défense accordés aux forces de l'ordre ne seraient pas assez utilisés. Alors, pour éviter de nouvelles dégradations, les syndicats penchent pour des mesures de sécurité plus stricte, des fouilles préalables pour tous les manifestants, des déclarations de manifestation obligatoires, celle de samedi dernier ne l'était pas, et puis certains syndicats demandent à ce que les manifestations sur les Champs-Élysées soient interdites. Pour Frédéric Lagache, secrétaire national adjoint d'Alliance Police, il faut être encore plus radical.
il faut interdire les manifestations ciblées de gilets jaunes, que ce soit sur les Champs-Élysées ou dans Paris éventuellement, parce que le phénomène va se déplacer. Les manifestations difficiles, où il y a de la casse, où on s'en prend aux policiers, ce n'est pas qu'à Paris. Dans des grandes villes et des moyennes villes, on a constaté des problèmes assez graves dans ce genre de manifestations.
Vis-à-vis des mesures qui vont être annoncées par le Premier ministre Édouard Philippe, les syndicats exigent beaucoup plus de fermeté, notamment sur le plan judiciaire et sur l'exécution des peines des manifestants interpellés.
Merci, Roméo Van Maastricht. Alors, on l'a dit, ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Élysées témoigne sinon d'une profonde erreur d'appréciation du pouvoir, à tout le moins de son incapacité à trouver une réponse appropriée face à ceux qui se revendiquent encore comme gilets jaunes. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Thomas.
Tu aurais-il que sous pression, après ces violences, donc de samedi, l'exécutif cherche une voie de sortie de crise à la fois sécuritaire mais aussi évidemment politique.
Oui, car tous les regards sont tournés vers l'exécutif à l'échelle nationale mais aussi internationale. Il y a quelques minutes, le porte-parole du gouvernement allemand a qualifié de terrifiantes les violences du week-end à Paris en ajoutant qu'il se tenait bien sûr aux côtés du gouvernement français. Celui-ci doit donc maintenant réagir. Une réunion est en cours effectivement depuis une heure maintenant entre Emmanuel Macron, son Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Ils doivent discuter de ces nouvelles dispositions en matière de sécurité qui seront rendues publiques aujourd'hui ou demain matin au maximum, nous dit Matignon. Cela dit, il ne faut pas s'attendre à de nouvelles lois. Le texte dit anti-casseurs, qui a été voté et soumis en ce moment à l'approbation du Conseil constitutionnel. Selon le journal Le Parisien aujourd'hui en France, Emmanuel Macron envisage d'interdire tout simplement les rassemblements sur les Champs-Élysées. Mais le peut-il ? La géographie des lieux est assez compliquée, avec de nombreuses rues adjacentes. Le risque est aussi que les éléments violents, on l'a entendu, se déploient dans les quartiers voisins au moment où les forces de l'ordre seront concentrées à occuper, à sécuriser les Champs-Élysées. Le gouvernement sait qu'il est attendu sur cette question de la sécurité, à la fois par ceux qui déplorent un laxisme au sommet de l'État, c'est le cas du Parti Les Républicains, mais aussi par ceux qui s'inquiètent d'un tour de vis sécuritaire, c'est le cas de la France Insoumise, et cela à 2 mois des élections européennes. L'axe de communication ce matin était donc simple, la contrition et la lucidité. Oui, il y a eu des problèmes, des dysfonctionnements, insiste Matignon. L'entourage du Premier ministre pointe la responsabilité du préfet de police de Paris, Michel Delpuech. C'est donc aussi sans doute un nouveau maillage hiérarchique qui semble s'annoncer.
Merci Frédéric Saïs. Réorganisation des hôpitaux et des études de médecine, mais aussi mutualisation de certains moyens. La grande réforme du système de santé français voulue par le gouvernement est examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors si un certain nombre de dispositions font d'ores et déjà consensus, comme la fin du très décrié numerus clausus, d'autres en revanche font davantage polémique, comme la réorganisation des hôpitaux, mais aussi la création d'établissements labellisés hôpitaux de proximité en remplacement des hôpitaux locaux actuels. Pour eux, comme pour un certain nombre d'autres sujets délicats de cette réforme, le gouvernement qui veut aller vite a prévu de recourir aux ordonnances officiellement pour se donner plus de temps parce que la concertation n'est pas assez avancée. Le cardinal Barbarin, reconnu coupable de ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles commises par un prêtre sur des mineurs, est reçu depuis ce matin par le pape François au Vatican, le pape auquel il doit présenter sa démission. Une rencontre privé en toute discrétion et de laquelle rien n'a encore filtré. Toute la question est désormais de savoir si le pape, bien décidé à placer aujourd'hui les évêques devant leurs responsabilités individuelles et collégiales face au scandale, acceptera pour autant la démission de celui dont il a longtemps pris personnellement la défense. Les précisions à Rome de notre correspondante Mathilde Imberti.
Le cardinal Barbarin est reparti de cette audience comme il y est arrivé, en toute discrétion. Pas un geste envers la presse, zéro déclaration ni même confirmation. Un confrère italien qui se trouvait dans les jardins du Vatican a pu le prendre en photo de loin alors qu'il sortait de son entretien avec le pape. L'audience a duré 30 minutes. Le pape a ensuite enchaîné ses rendez-vous selon la cadence habituelle, un interlocuteur par demi-heure. Ce que se sont dit les deux hommes, on ne sait pas. Mais selon ce même confrère, l'archevêque de Lyon a bien remis sa démission au pape. Le pape devrait s'accorder du temps avant de statuer. Sauf surprise, sa décision ne sera pas prise aujourd'hui, mais dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce qui pose question, c'est le timing, car le pape, en acceptant la démission du cardinal, se pose en aval d'une décision judiciaire. D'un autre côté, cette décision est fortement désirée par le cardinal Barbarin lui-même, qui, selon son bras droit à Lyon, aurait été secoué par le procès de première instance et aurait décidé de quitter la tête du diocèse avant même de savoir qu'il était condamné. Le 7 mars dernier, ce sont 6 mois de prison avec sursis qui ont été prononcés contre lui. Le cardinal Barbarin sera néanmoins rejugé car il a fait appel et le procès pourrait se tenir avant la fin de l'année.
La plus grande incertitude mêlée d'inquiétude aux Pays-Bas où plusieurs personnes auraient été blessées, une autre tuée ce matin dans une fusillade dans un tramway de la ville néerlandaise d'Utrecht. Une opération de secours est en cours, plusieurs hélicoptères médicaux ont été déployés. Le porte-parole de la police a dit que la thèse d'une motivation terroriste était envisagée. Et puis l'auteur des coups de feu serait en fuite, précise toujours la police citée par la presse locale. Instruction a été donnée aux écoles de la ville de fermer leurs portes. C'est un procès sous haute tension qui s'est ouvert ce matin en Allemagne. Procès contre un jeune Syrien accusé du meurtre en août dernier à Chemnitz d'un Allemand de 35 ans. Ce sordide fait divers instrumentalisé par des groupes d'extrême droite avait conduit un véritable déferlement de racisme inédit ces dernières années en Allemagne et en particulier à des chasses à l'étranger dénoncées à l'époque par Angela Merkel. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes en direct de Berlin, alors précisons que par crainte de nouveaux dérapages, le procès ne se déroule pas en réalité à Chemnitz mais dans une autre ville de Saxe, à Dresde. Et puis s'agissant de l'affaire elle-même, le parquet dit avoir recueilli une centaine de témoignages, sauf que selon plusieurs médias, Ludovic, les preuves contre l'accusé seraient plutôt ténues.
Oui, à 22 ans, cet Irakien, demandeur d'asile, entré en Allemagne en 2015, clame son innocence. Pour l'accusation, il était bien présent avec un autre Irakien, même âge et même situation administrative que lui, sauf que ce dernier est en fuite et toujours recherché. Ce procès s'ouvre donc sans le principal accusé, avec ce seul homme poursuivi pour complicité et homicide involontaire, et donc un seul témoignage contre lui. Vous avez mentionné cette base de centaines, d'une centaine de témoignages. Que dit ce témoin, Thomas? Il l'a vu faire des gestes qui ressemblaient à des coups de couteau, mais qu'il n'a jamais vu le couteau, l'arme du crime. Eh bien, un couteau retrouvé pas très loin, avec le sang de la victime, bien sûr touché à 5 reprises, mais aucune trace d'ADN de l'accusé, pas d'empreinte, pas de fibres, pas de cheveux, rien sur la scène du crime, il n'y a pas de vidéo non plus. C'est bien maigre, mais à l'ouverture de l'audience tout à l'heure, la défense a commencé par soulever un autre problème. En vue d'un procès équitable, la question de l'indépendance de la cour, question posée à des juges professionnels et non professionnels, ils sont 5. Êtes-vous membre ou partisan de l'extrême droite AFD ou du mouvement islamophobe Pegida? Il faut bien se souvenir, Thomas, combien ce meurtre au mois d'août a réveillé les groupes xénophobes très violents qui sont présents notamment dans ce land de Saxe, bien connus, ces éléments bien connus des services de police qui enterrent d'ailleurs aujourd'hui, ils n'ont pas choisi le jour complètement par hasard, ils enterrent en ce moment même l'un des leurs, un hooligan néo-nazi, des obsèques qui sont placées sous très très haute surveillance. Plus de 4000 policiers sont présents à Chemnitz aujourd'hui.
Merci Ludovic, Piétenu en direct de Berlin. À l'orée d'une nouvelle semaine de tous les dangers pour le processus du Brexit, le gouvernement britannique tente encore de rallier suffisamment d'élus à la Chambre des communes pour parvenir enfin à faire ratifier l'accord de retrait négocié avec les Européens. Theresa May a annoncé qu'elle se donnerait jusqu'à mercredi au plus tard pour tenter de faire approuver cet accord par les députés. Le vote pourrait intervenir dès demain, mais le conditionnel s'impose, d'autant qu'hier, deux de ses ministres ont laissé entendre que Theresa May pourrait tout aussi bien renoncer à présenter pour la troisième fois le texte âprement négocié avec Bruxelles. L'Afrique australe ravagée par le cyclone Idai, l'un des plus puissants cyclones de l'océan Indien de ces 10 dernières années. Le Mozambique et le Zimbabwe ont notamment été très durement touchés. Selon le dernier bilan provisoire, la catastrophe naturelle a fait au moins 162 morts, des dizaines de disparus et des milliers de déplacés. Avec ces vents d'une extrême violence associés à des pluies torrentielles, la tempête a emporté avec elle routes, ponts, hôpitaux, écoles, détruisant parfois totalement certaines régions de ces deux pays. Correspondance dans la région signée Claire Bargelès.
C'est d'abord le centre du Mozambique qui a été touché de plein fouet jeudi, et plus précisément Beira, la deuxième ville du pays. Ce port d'un demi-million d'habitants a été ravagé à 90% selon la Croix-Rouge, qui parle de dégâts terrifiants. Sur les premières images diffusées, on peut voir des amas de tôles et des terrains recouverts par les eaux. Idai a tout emporté sur son passage, routes, écoles, barrages, laissant les habitants pour un temps coupés du monde. Il s'agit pour le ministre mozambicain de l'Environnement de la plus grave catastrophe naturelle vécue par le pays. Le cyclone a par la suite durement touché l'est du Zimbabwe. Là encore, des régions ont été isolées suite à l'effondrement de routes et de ponts et des centaines de personnes ont dû quitter leur habitation pour rejoindre des zones sûres. Le président Emmerson Mnangagwa a écourté en urgence son déplacement à Abu Dhabi et a décrété l'état de catastrophe naturelle. Il est pour l'instant difficile pour les sauveteurs d'atteindre les zones affectées. La météo, toujours peu clémente, empêche les hélicoptères d'aller au secours des personnes sinistrées et de fortes pluies sont encore attendues dans la région, ce qui pourrait aggraver le bilan de la catastrophe.
L'examen préliminaire des données récupérées dans les boîtes noires du vol 302 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé le 10 mars dernier, tuant les 157 personnes à son bord, ont révélé des similitudes avec le crash de Lion Air en Indonésie 5 mois plus tôt. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre éthiopien des Transports, sans toutefois fournir plus de détails sur ces similitudes donc entre les deux accidents. Toujours est-il qu'après ces révélations, une question est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Les États-Unis auraient-ils été complaisants dans la certification du Boeing 737 Max? Marie Vienneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, s'il faudra sans doute encore attendre des mois pour connaître les causes définitives de ces deux accidents, les experts s'interrogent sur la certification du système de stabilisation en vol destiné à éviter un décrochage de l'avion. L'Agence fédérale de l'aviation américaine, le principal régulateur du transport aérien, est notamment depuis hier dans la ligne de mire. Pourquoi ? Parce que c'est elle, Marie, qui autorise la mise en service des avions.
Oui, la FAA, Federal Aviation Administration, accorde les autorisations de vol aux compagnies aériennes et certifie également les nouveaux modèles d'avions. En 2012, une loi de modernisation et de réforme de cette instance fédérale a créé la possibilité pour des entreprises de devenir elles-mêmes organismes certificateurs en collaboration avec la FAA. Le but étant de réduire les délais de certification tout en maintenant, lit-on sur le site de la Fédération de l'aviation américaine, un haut degré de sécurité. Il y a actuellement une quarantaine de ces certificateurs entreprises et Boeing en fait partie. D'après le Wall Street Journal, le ministère du Transport américain est en quête de documents qui pourraient illustrer des manquements dans la procédure d'accréditation du Boeing 737 MAX. Une assignation en justice aurait été envoyée à l'une des personnes responsables du 737 MAX pour qu'elle livre tout document ou correspondance, ce qui permettrait d'en savoir plus sur les échanges entre la FAA et Boeing au sujet de ce nouvel avion dont on sait qu'il était crucial pour l'avionneur américain d'un point de vue commercial pour concurrencer Airbus. Boeing se défend depuis le début de la crise de s'être précipité pour sortir le 737 MAX, mais selon des sources citées par le Wall Street Journal, le constructeur américain aurait réussi à persuader les agents de l'Agence fédérale américaine d'aviation que le système anti-décrochage de leur nouvel avion ne pourrait jamais conduire à un accident fatal. Or, les enquêteurs qui analysent la boîte noire du Lion Air qui s'est écrasée il y a 5 mois en Indonésie considèrent qu'au contraire, c'est un élément clé de l'accident. En avoir le cœur net prendra, comme vous le disiez, des mois, mais le système de régulation américain est maintenant clairement sur la sellette. Le Sénat et la Chambre des représentants ont décidé d'auditionner publiquement les cadres de la Fédération américaine d'aviation.
Merci Marie Vienneau. Le président brésilien Jair Bolsonaro est aux États-Unis pour une visite durant laquelle il rencontrera Donald Trump. Objectif, scellerait une alliance conservatrice, renforcer les relations économiques mais aussi accroître la pression sur le Venezuela. Les deux chefs d'État ont affirmé leur alignement idéologique contre le président élu Nicolas Maduro tout en prenant parti pour le chef de l'opposition Juan Guaido. En revanche, le Brésil ne souhaite pas se lancer dans une aventure militaire. De même, le Brésil ne souhaite pas entrer dans la guerre commerciale avec la Chine, premier partenaire commercial du géant latino-américain. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Valentine Zuber, historienne et enseignante à l'école pratique des hautes études. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous ferez partie, madame, des intellectuels invités à participer au débat organisé ce soir par Emmanuel Macron et retransmis en direct sur France Culture dès 18h15. Pensez-vous qu'avec 70 pratiquement de vos collègues réunis autour du chef de l'État, vous pourrez effectivement débattre avec le président?
Ça semble une gageure, hein, effectivement, parce que, ne serait-ce qu'en termes de temps de parole, on ne voit pas très bien comment tout le monde pourra véritablement s'exprimer. Et j'espère simplement que ce ne seront pas toujours les mêmes qui prendront la parole et que le débat sera quand même un tout petit peu modéré. Et je pense que c'est France Culture qui se charge de cette modération. Et évidemment, on en espère beaucoup.
Comment s'est déroulée cette invitation ? Et comment est-ce qu'on vous a présenté la chose ?
Alors écoutez, ça a été tout à fait flou puisque j'ai été contactée par le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont je dépends en tant qu'universitaire, et qui m'a demandé si j'étais prête à rencontrer le président de la République dans le cadre du grand débat. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai eu. Le deuxième élément de réponse.
On vous a pas dit combien d'intervenants, vous a pas dit comment ça allait se dérouler, on vous a pas donné de précision comme ça.
Pas du tout. J'ai même demandé si ça se passerait à l'Élysée, on m'a dit non, certainement pas. En fait, voilà. Donc, on peut dire que c'était assez flou, mais en dépit de cela, moi, j'ai toujours pensé que j'étais à la disposition des personnes dans le cadre d'un débat. Je pense que c'est notre métier aussi, le de débattre, et donc on peut aussi apporter notre apport.
Et ça, c'était il y a combien de temps ?
C'était il y a une quinzaine de jours.
Est-ce que vous avez hésité ?
Non, j'ai pas hésité du tout, parce que il me semble que nous sommes là, nous, universitaires, intellectuels, à l'interface entre la population et les politiques, que nous sommes souvent, d'ailleurs, vilipendés, un peu comme les politiques, comme faisant partie de l'élite, et pourtant nous avons une approche du terrain, une approche différente, qui est sur le temps long, qui n'est évidemment pas le temps du politique, mais qui peut contribuer à mieux comprendre les problèmes en cours.
Comment vous imaginez que ça peut se dérouler ? Est-ce que ça doit être un dialogue, un échange, une confrontation ? Des questions-réponses ? Est-ce que vous avez des questions à lui poser, notamment dans votre domaine de spécialité, qui est la laïcité ? Vous intervenez beaucoup dans les médias sur cette question-là. Ou est-ce que vous avez des choses à lui dire, plutôt ?
Non, je pense que j'aurais plutôt des choses à lui dire et à recommander dans le cadre de ses responsabilités politiques, sans vouloir dicter sa manière de faire, bien entendu, parce que ce n'est pas le rôle de l'intellectuel de le faire, mais peut-être rendre attentif à la nécessité d'un apaisement, en tout cas dans le domaine de spécialité qui est le mien, dans la laïcité, il y a des débats et des polémiques incessantes, il faut arriver à calmer le jeu, parce que ce qui est important dans ce domaine-là, c'est de construire un vivre ensemble qui convienne à tout le monde et que l'identité française soit une identité partagée.
Est-ce que sur cette question de la laïcité, il y a un nécessaire exercice de clarification de la part du président ?
Je crois que l'exercice de clarification, il a tenté de le faire, alors jamais pour le faire, enfin un grand discours sur la laïcité, mais devant divers interlocuteurs, il a donné des pistes. Et ces pistes, elles sont intéressantes. Maintenant, il y a encore un débat sur la modification ou pas de la loi de 1905. Et ce débat, il faudrait peut-être qu'il y ait plus de transparence, qu'il soit fait aussi avec l'ensemble des citoyens.
Est-ce que vous ne craignez pas une sorte de concours d'éloquence où chacun essaiera d'exister le plus possible ce soir ?
Ben, c'est toujours à craindre. Vous savez que les intellectuels adorent parler, hein, et parler longtemps, parce qu'ils élaborent une pensée complexe, et donc évidemment ça ne se dit pas en deux ou trois slogans. Mais j'espère que nous avons aussi une pratique du dialogue au sein de l'université ou des sphères dans lesquelles nous intervenons, et donc je pense que cela se passera bien.
À quoi ça doit servir, cette confrontation, cet échange ? Comment vous imaginez l'aboutissement de ça dans les semaines ou les mois à venir ?
Alors je pense que ça ne pourra pas s'arrêter là. Il faudra que d'une manière ou d'une autre, il y ait des sous-groupes ou des petits groupes sur des thématiques précises qui continueront d'apporter leur expertise de manière beaucoup plus détaillée. Là, nous ne pourrons faire que une sorte d'inventaire, peut-être même un inventaire à la Prévert, vu les différences de spécialité des différents intellectuels qui ont été invités. Mais c'est bien de lancer le sujet, mais je pense qu'après, il faudra continuer à travailler.
C'est-à-dire d'autres rencontres par la suite, en plus petit comité peut-être
ou... Oui, et pas forcément avec le président de la République, mais peut-être avec ses services. Je plaide pour une plus grande fluidité et un dialogue entre les politiques qui sont obligés au temps court et les intellectuels ou universitaires qui travaillent sur un temps beaucoup plus long.
Est-ce que plus globalement, ce débat organisé suite à la contestation qui s'est exprimée vous paraît en partie répondre aux attentes de la population française ?
Alors, vous parlez du grand débat.
Du débat, plus globalement, au-delà de votre confrontation
avec le président. Oui, je pense, aux attentes, les Français sont rarement satisfaits des formes qu'on leur propose, mais quand même, ça a été un moment unique, à mon avis, dans la vie politique française, que ces débats de toute nature, à tous les endroits, organisés par les mairies, auto-organisés par les groupes, avec la société civile, avec les acteurs. Je pense que cette culture du débat démocratique, on en manquait, eh bien, c'est un premier pas.
Merci Valentine Zuber, historienne, je le rappelle, enseignante à l'école pratique des hautes études, d'avoir été en direct avec nous avant donc le débat organisé ce soir par Emmanuel Macron et une soixantaine d'autres intellectuels retransmis en direct sur France Culture à partir de 18h15. Et merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot rapide de météo, alternant cet après-midi d'éclaircies et de nuages, parfois porteurs de quelques averses. Les températures, elles seront comprises entre 8 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.